ça, Bernard, que nous on connaît avec un autre prénom, Consuelo. Donc c'est son anniversaire aujourd'hui. Alors sois béni, Maria Inostrosa, Bernard, Consuelo, sois béni, que le Seigneur t'accorde sa grâce en cette journée. Alors ceux qui veulent lui souhaiter un joyeux anniversaire, ne manquez pas de le faire. Ah ben alors le monde doit m'appartenir, Thérèse. Je suis à tous les matins à 4h59, le réveil sonne. Et habituellement, je suis réveillé avant que le réveil ne sonne. Donc le monde m'appartient, j'en suis très content. Sois bénie, Thérèse. Bonjour Didier, sois béni. Et comme je fais régulièrement de l'insomnie, alors je dois comprendre que le monde m'appartient vraiment, mais vraiment. Alors juste vous donner quelques nouvelles avant qu'on ne prie pour débuter. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour mon père. Vous savez qu'il est à l'hôpital depuis une semaine maintenant avec une arythmie cardiaque. Donc, on a fait plusieurs tests, on a fait résonance magnétique au niveau cérébral et tout ça. Donc, aujourd'hui, il y a deux tests importants. Il y a une espèce d'échographie qu'on fait avec une caméra qu'on descend le long de l'œsophage. Qui est déjà assez pénible. Donc cet examen-là se fait avec un peu de sédatif, mais on est encore très conscient. Donc ça peut être assez pénible pour qui n'est pas habitué. Donc on demande pour cet examen-là de prier. Et plus encore, il y a un deuxième examen. Et là, c'est une caméra qu'on introduit dans un vaisseau sanguin jusqu'au cœur en lui-même. Et puis on va ausculter le cœur depuis l'intérieur même des parois du cœur. Donc la caméra qu'on fait descendre le long de l'œsophage, c'est une échographie en fait. Et puis c'est pour voir les parois extérieures. Mais l'autre est un examen, donc la caméra dans une veine qui va directement au cœur. Puis là c'est pour voir s'il y a des caillots ou quoi qui se serait formé dans le cœur. Et de surcroît à ça, on va peut-être aussi procéder à un traitement pour arrêter l'arythmie. Puis à ce moment-là, on brûle des parties dans le cœur qui suscitent l'arythmie. Donc c'est quand même des choses envahissantes qui vont se passer aujourd'hui. Donc on vous demande de garder mon père en prière. Donc le premier examen est une anesthésie locale plus un peu de sédatif, mais le deuxième examen avec la caméra qui va jusqu'au cœur et puis les traitements qui s'en suivent, c'est une anesthésie générale. Donc on vous demande de prier pour lui aujourd'hui. J'ai pas eu de nouvelles ces jours-ci de la maman de Eric, mais je crois qu'Eric s'est connecté hier. À moins que ce soit un de ses proches qui se soit connecté sur sa page Facebook et qui a aimé notre requête de prière à son égard. Donc, je vais essayer de parler avec la maman d'Éric aujourd'hui. Et puis, pour les obsèques de la maman de Patricia, ça se passe demain. Donc, aujourd'hui, on espère que la sœur de Patricia, la dernière qui reste à voyager, ou à qui il restait de voyager jusqu'au Burkina. On espère qu'aujourd'hui, elle peut effectivement partir et voyager vers le Burkina. Donc, et puis demain aurait lieu donc l'enterrement. Très occupé, j'ai des nouvelles par ricochet par son beau-frère. Donc, beaucoup de personnes qui vont à la maison, ça garde la maison très occupée. Les enfants qui viennent d'arriver d'Europe ou d'Amérique, très occupé, donc on demande de prier pour la famille encore, pour le pasteur Tapsoba et puis pour toute la famille. Donc les obsèques demain. Voilà, alors c'était tout pour les nouvelles. On va prier maintenant pour remettre ce temps d'enseignement entre les mains du Seigneur. Alors Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour ce moment que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ton soutien. On te présente déjà Seigneur le pasteur Giacomin, on te présente encore Eric, toujours à l'hôpital, et on te présente encore une fois la famille de notre sœur Patricia, que dans chacun des cas, dans certains d'entre eux, c'est un besoin de guérison, besoin dans leur corps. Dans d'autres, c'est un besoin de consolation par rapport à un décès. Tu es celui qui prend soin de notre corps et qui prend soin de notre âme et de notre esprit. Alors aujourd'hui, étends ta main sur nos bien-aimés, fortifie-les et accorde-leur ce qui leur est nécessaire pour faire face aux défis de cette journée. Pour nous, simplement, on te demande, Seigneur, dans les prochaines minutes, alors que nous plongeons nos regards dans ta parole, que tu puisses nous instruire, que tu puisses nous parler, que tu puisses, Seigneur, nous enseigner à travers cette parole et que tu puisses trouver chez nous un cœur qui t'est disposé, des pensées qui te sont acquises et des vies, Seigneur, que tu peux utiliser comme il te plaira. Aujourd'hui, Seigneur, bénis ma sœur, bénis mon frère, fais-nous entendre ta voix parce que nous avons besoin de toi. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Alors, je lis pour vous les versets thème pour cette semaine dans Éphésiens, au chapitre 5, les versets 15 à 17. Éphésiens 5, 15 à 17. Et aujourd'hui, on étudie la première partie du verset 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Je répète le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Alors que Dieu puisse bénir sa parole ce matin. Ce verset 17 est vraiment lié au verset précédent. Tout au long de cette semaine, la thématique importante pour nous, c'est ma réponse à l'enseignement de la parole de Dieu. Ma réponse à l'enseignement de la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais avec les prédications que Dieu nous donne en tant qu'Église locale par les serviteurs que Dieu place devant nous pour nous enseigner, pour nous nourrir spirituellement? Quelle est la réponse que j'offre à ces enseignements? Est-ce que je les prends pour acquis? Est-ce que je les prends tout simplement comme un état ou un moment plutôt agréable qui détend mon esprit tout simplement? Ou je les prends effectivement comme une nourriture spirituelle adaptée à la diète particulière de notre famille spirituelle? Et assurément, vous comprenez que ma position par rapport à cela est cette dernière option dans laquelle effectivement on considère que Dieu nourrit chacun des corps locaux que représentent les églises locales pour un but, pour une œuvre en particulier, pour un appel tout particulier que Dieu offre ou donne à une église locale. Et ce faisant, il va donner non seulement un appel, mais il va aussi donner les ouvriers. Il va donner les talents, les dons, et bien entendu, il va donner ce que ça prend pour ces ouvriers locaux et pour ce peuple local pour s'édifier, se fortifier et aller de l'avant dans l'appel et dans le mandat qui leur est accordé. Et cette nourriture spirituelle vient principalement par l'enseignement commun que nous recevons lors de nos assemblées, lors de nos études bibliques, lors des cours qui peuvent être donnés au sein d'une congrégation. Et on sait que la parole de Dieu, et je le répète régulièrement, j'espère que c'est devenu un acquis pour vous maintenant, la parole de Dieu qui est enseignée un jour particulier, qui est enseignée à un moment précis de l'histoire, a quand même été pensée de toute éternité par Dieu en vue de l'auditoire que nous sommes et en vue de la journée à laquelle nous sommes avec la, par la, au milieu de laquelle nous sommes confrontés à cette parole. Donc, ce que je vais dire aujourd'hui, foncièrement, a été préparé par Dieu de toute éternité pour l'époque à laquelle nous vivons, dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Donc, lorsque je m'assois pour écouter une prédication à l'église, en présentiel ou de surcroît à cela, dans les contextes comme aujourd'hui et comme ceux de notre époque, via l'Internet, ça reste quand même une prédication, un enseignement qui a été réfléchi, pensé et inspiré par Dieu de toute éternité. Alors, mon attitude par rapport à celui-là va témoigner soit un honneur que j'accorde et un respect profond, une crainte profonde que j'accorde à cette prédication et à ce travail de Dieu et à cette inspiration de Dieu, voire en contrepartie, et ça serait triste si c'était notre cas, mais aussi un certain mépris qu'on pourrait offrir lorsque je ne considère pas cette prédication comme venant de Dieu et comme étant la nourriture pour notre journée et pour notre groupe en tant qu'église locale et notre communauté en tant qu'église locale, ben je méprise un peu ce que Dieu a donné. Et je dis un peu entre guillemets, évidemment. Donc, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Hier, on a parlé de l'importance de la parole de Dieu dans le travail que nous faisons. Et lorsque, juste pour résumer très très brièvement, pour ceux qui n'étaient pas là hier, lorsque le verset dit « rachetez le temps car les jours sont mauvais », lorsqu'il parle du temps et des jours, il parle en fait de cette fraction du temps qui se répartit depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, depuis le moment où le soleil se lève jusqu'au moment où il décline à l'horizon. Et dans la tradition de l'époque, lorsqu'on utilisait une telle expression, lorsqu'on utilisait un tel mot, on parlait essentiellement de la journée comme temps de travail, opportunité de travail. Et ici, on ne parle pas des temps de la fin, on ne parle pas du retour de Christ, on ne parle pas dans l'étymologie du terme des temps apocalyptiques auxquels on réfère trop souvent ce verset, en disant il faut racheter le temps parce qu'il en reste presque plus. Non, ce verset-là est intemporel et il n'est pas fixé à un temps particulier historique, mais plutôt au temps quotidien qui est donné à chacun d'entre nous pour que nous travaillions et principalement pour que nous travaillions pour Dieu. Et ici, on va nous dire « ne soyez pas inconsidérés ». C'est pourquoi « ne soyez pas inconsidérés ». Le terme important pour nous ce matin, c'est le terme « inconsidéré ». Je grossis un peu mes caractères pour être sûr de ne pas passer outre. « Inconsidéré », c'est le terme « aphron ». « Aphron ». A-P-H-R-O-N. Pour ceux qui prennent des notes, je répète « inconsidéré »,« aphron », A-F-H-R-O-N. R-O-N, aphron, qui ne réfléchit pas ou qui agit par imprudence. Lorsque cette terminologie va être prononcée, ici effectivement par Paul, pour l'église d'Éphèse, mais bien entendu pour nous tous qui sommes partie prenante de l'église de Christ et que nous nourrissons de cette parole, le terme aphron va nous dire de ces périodes de la vie dans lesquelles on ne prend pas le temps de réfléchir ou dans lesquels on s'immisce dans des situations où on met les pieds dans des circonstances sans avoir réfléchi et donc en faisant preuve d'une imprudence particulière. Alors, il y a quatre points que j'aimerais faire ressortir ce matin par le fait que nous sommes appelés à faire notre travail, mais pas comme de façon inconsidérée. Donc, première chose qu'on doit recevoir, qu'on doit savoir, toujours concernant la prédication et concernant la parole de Dieu, la parole ne prône pas de perdre notre capacité à réfléchir et à décider. Très souvent, lorsqu'on parle d'être croyant au niveau des inconvertis, au niveau de ceux qui ne le sont pas croyants, Très souvent, on va sortir des phrases, je ne me rappelle plus qui a sorti ça, est-ce que c'est Marx ou Goethe, je ne suis pas sûr, mais il y en a un des deux qui avait sorti à un moment donné que la religion était la béquille du peuple, voire même que la religion était l'opium du peuple, et que c'était une façon de ne pas faire face à la réalité des choses, comme si on avait la foi et ça nous permettait de nous détacher de la réalité des choses. Soyons très très clairs. Lorsqu'on nous dit ici de ne pas être inconsidéré, ça veut donc dire qu'on ne doit pas perdre notre capacité à réfléchir et à décider. Reprenons simplement l'exemple de l'église de Béré, qui est un exemple merveilleux pour nous aujourd'hui encore. L'église de Béré, lorsqu'il recevait un enseignement de la part de Paul, la Bible nous dit qu'il prenait ses enseignements, qu'il rentrait à la maison et qu'il réfléchissait à savoir si cet enseignement cadrait avec la parole que eux-mêmes connaissaient déjà. Donc il y avait ce travail de réflexion. Lorsqu'on enseigne le dimanche et lorsqu'on reçoit la parole de Dieu du dimanche matin ou des autres occasions qu'on a durant la semaine, idem pour nos bénédictions matinales. Il devrait être du travail, de la responsabilité de tous les auditeurs actuellement et de tous ceux qui écoutent la parole, de prendre cette parole et de la méditer et d'y réfléchir, à savoir est-ce que ce que dit le pasteur Florent est vrai ou pas? Est-ce que ça cadre avec la pensée de Christ? Est-ce que ça cadre avec la pensée globale de Dieu? Est-ce que c'est en harmonie avec la parole de Dieu globale, ou est-ce qu'on est en train de dérailler? Donc l'église de Béré était reconnue pour ce travail exceptionnel qu'ils faisaient, et ils étaient vantés ou on en faisait la louange. Et pour nous, ça devrait être aussi un exemple. Et ça devrait nous dire que non, nous ne sommes pas des moutons de Panurge, il y en a un qui tourne à droite et tout le monde tourne à droite, nous devrions comprendre qu'effectivement, cette parole de Dieu nous amène à une maturité. Bien sûr, on accepte la parole de Dieu comme venant de Dieu, mais on y réfléchit et cette adoption se fait de façon réfléchie. Donc la parole reçue ne prône pas de perdre notre capacité à réfléchir et à décider. Idem dans notre relation avec Christ. Notre relation avec Christ n'est pas à l'image d'un robot qu'on manipule avec une télécommande. Ce n'est pas un pantin, vous savez, cette image de guignol, des marionnettes qu'on avait autrefois, avec une main au-dessus et des fils qui tenaient le pantin, et puis on bougeait le pouce, et puis il y avait le bras du pantin qui se levait, tu bougeais un autre doigt, puis il y avait le bras qui bougeait, et tout cela était contrôlé donc par un marionnettiste qui faisait avancer le pantin. Devant Dieu, nous ne sommes pas des pantins. Nous suivons ce que Dieu nous demande de faire, par choix éclairé et par choix délibéré. Si je viens à Christ, c'est une décision. Si je refuse de venir à Christ, le terme refuser à la base est le fruit d'une décision. Donc le croyant, celui qui décide de croire, il le fait en gardant tout au long de sa vie une capacité à réfléchir. Important à savoir aussi. Donc, premier point, la parole reçue ne prône pas de perdre notre capacité à réfléchir et à décider. Nous restons des êtres dont la différence avec le restant de la création est dans notre capacité à réfléchir et à prendre des décisions. Les animaux ne réfléchissent pas, ils agissent par instinct, par habitude. L'être humain agit par décision. Et nous devons effectivement continuer dans cette même veine en obéissant à Dieu par décision et par décision délibérée et libre. Deuxième point, la parole reçue doit pousser à une vie réfléchie. En fait, non seulement nous recevons la parole de Dieu et on ne brime pas la réflexion et la décision, mais de surcroît à cela, on devrait être des gens qui font des introspections, des gens qui se demandent, mais pourquoi je mets le pied à tel endroit? Le Seigneur va nous dire dans sa parole que celui qui bâtit une maison doit s'arrêter avant de bâtir pour savoir est-ce que j'ai tout ce que ça prend pour bâtir cette maison. Avant de m'embarquer dans quelque chose, je devrais effectivement avoir ce réflexe de réfléchir. Et vous savez, j'ai eu l'occasion de le dire à travers l'année, je fais souvent des introspections personnelles en ce qui a trait à mon ministère. Je m'excuse, à mon ministère. Merci. Donc, face à mon ministère, face à la façon de faire, face à l'orientation que prend l'Église, face à l'orientation que prend mon ministère, face à ce que je crois avoir reçu de la part de Dieu, face aux réponses que j'offre à ce que je crois avoir reçu de la parole de Dieu, je prends régulièrement des moments d'introspection durant l'année où je fais des bilans pour moi-même en disant, mais sur tel plan, où est-ce que j'en suis rendu? Sur tel objectif, où est-ce que j'en suis rendu? Sur telle chose que tu demandais de moi, Seigneur, où est-ce que j'en suis rendu? Et dans ce temps de réflexion, je demande effectivement à Dieu, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Quelle est ta pensée de ceci? Et le Seigneur peut nous répondre de différentes façons, que ce soit à travers des révélations dans sa parole, que ce soit à travers des rêves, des visions, des songes, mais que ce soit aussi à travers notre propre réflexion. Seigneur, est-ce que je t'ai donné tout ce que je devais te donner? Est-ce que je t'ai donné le meilleur de moi-même? Est-ce que je t'ai donné la place première dans mes priorités? Tout cela, on a besoin d'y réfléchir. Seigneur, est-ce que j'ai fait le travail que tu voulais que je fasse? Est-ce que j'ai fait le travail pour lequel tu m'as appelé? Parce que régulièrement, on va faire un travail, mais ce n'est pas nécessairement ce à quoi Dieu nous a appelé. Je vous donnerai un exemple. Quelqu'un qui veut à tout prix être musicien dans l'église, il sait à peine gratouiller la guitare et il dit, mais moi, je suis musicien. Et là, il se met à jouer la guitare. C'est faux, c'est pas dans le rythme, ça correspond pas à ce que le chantre ou les chantres reçoivent de la part du Seigneur comme liste de chants. Mais lui va à tout prix jouer ce cantique-là. Pourquoi? Parce qu'il l'a pratiqué durant la semaine. Mais le niveau n'y est pas, l'appel n'y est pas, la consécration n'y est pas, l'attitude n'y est pas. Et il ne fait pas ce que Dieu a appelé parce que foncièrement, Dieu l'avait appelé à faire autre chose. Dieu lui avait peut-être demandé de témoigner à droite ou à gauche. Dieu lui avait peut-être demandé de diriger plutôt une prière, d'apporter un enseignement. Mais lui dit non, je veux être guitariste, je veux être musicien. Alors, ce qu'il a fait avec la guitare, ouais, c'est sympa, c'est gentil, mais ce n'est pas ce à quoi Dieu l'avait appelé. Donc, nous, en tant que serviteurs, on peut se répandre sur bien des horizons dans les choses que nous faisons. On peut s'étendre à bien des choses, mais rater l'objectif pour lesquels Dieu nous avait appelés et pour lesquels Dieu s'attend à un rendement. Alors, en tant que serviteur, il est important que je puisse mener une vie qui est réfléchie. Savoir, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que je suis dans le temps de Dieu? Est-ce que ça se pourrait que je sois en train de précéder son temps? Est-ce que ça se pourrait que je commence à prendre du retard par rapport au temps de Dieu? Est-ce que ça se pourrait que je ne sois pas en train d'appliquer les méthodes que Dieu voudrait que j'utilise? Est-ce que ça se pourrait que je n'ai pas la bonne disposition de cœur par rapport à la fonction que Dieu veut que j'occupe? Et tout ça, on va obtenir les réponses par réflexion. Par réflexion. Donc, notre vie est la parole que nous recevons de la part du Seigneur lors de nos prédications devrait à la base nous servir de réflexion. Lorsque j'entends une prédication, ça devrait m'amener à moi à réfléchir, à savoir, mais qu'est-ce que je fais de cette prédication et quels sont les domaines qu'elle touche dans ma vie? Si la prédication parle, par exemple, de l'évangélisation, alors ça doit susciter chez moi un questionnement par rapport au temps que je consacre à l'évangélisation, au travail que je fais à travers l'évangélisation. Si la prédication parle des temps de dévotion personnelle, des temps de prière, d'étude, de méditation personnelle dans la parole de Dieu. Alors, cette prédication-là, elle peut être joyeuse, elle peut être rigolote, dépendamment du style que le prédicateur peut avoir, mais à la base, elle doit amener chez moi une introspection et une réflexion. Qu'est-ce que je fais? Où en suis-je rendu? Quel est mon rendement? Quel est le fruit de ma vie dans les domaines qu'aborde cette prédication? Nous ne prêchons pas le dimanche et nous ne prêchons pas durant la semaine et je ne prêche pas le matin lors des bénédictions matinales simplement pour vous faire passer du bon temps. L'objectif de Dieu dans toutes ces occasions de nourriture et dans toutes ces occasions de repas spirituels, c'est que nous puissions tous et chacun nous interroger à savoir où nous en sommes rendus avec le Seigneur dans ces différents domaines. Alors cette semaine, on parle de la parole reçue et l'objectif, c'est que vous puissiez vous demander et je puisse me demander, quand j'écoute une prédication donnée au sein de la congrégation, lorsque j'écoute un enseignement au sein de la congrégation, qu'est-ce que je fais avec cet enseignement ou cette prédication? Troisième point, la parole de Dieu ne prône pas la passivité, mais la soumission réfléchie, acceptée, délibérée à la volonté de Dieu. Encore là, une des critiques que le monde fait concernant le croyant, concernant le chrétien, et je crois que c'est une critique erronée, les gens vont dire, ah oui, mais vous remettez tout ça entre les mains de Dieu, vous ne prenez pas vos responsabilités, vous êtes des gens passifs. Se soumettre à la volonté de Dieu n'a rien de passif. C'est une décision réfléchie et foncièrement contre nature. Le réflexe naturel chez l'homme, c'est de dire s'il y a un problème, je vais le résoudre moi-même. Et très souvent, on a ce dilemme où Dieu, par moment, va nous dire, en anglais, c'est le verset qui dit Stand still and see what God will do. Restez en place et regardez ce que Dieu fera pour vous. Et par moment, effectivement, on doit se taire. On doit tout simplement regarder ce que Dieu fait et on doit se soumettre à ce temps d'immobilisme, d'immobilité dans lequel le Seigneur nous place ou nous demande d'être. La soumission à la parole de Dieu, ce n'est pas de la passivité, mais c'est un choix clair, délibéré, assumé, réfléchi, accepté de la volonté de Dieu. Donc, il n'y a rien de passif. Arrêtons de croire à ces mensonges qui nous laissent croire que si nous nous soumettons à la parole de Dieu, nous sommes des êtres passifs. En fait, c'est très actif de se soumettre à la volonté de Dieu. Ça veut dire que même si mon être intérieur me dit, Florent, tu vas à gauche, si je sais que Dieu me dit, tu restes sur place, tu ne bouges pas, alors c'est une décision active. Mon être intérieur peut me dire, Florent, prends les choses en main, débrouille-toi par toi-même, aide-toi et le ciel t'aidera. Ça, c'est mon esprit très humain qui me dit ça, mais l'esprit de Dieu me dit, fais confiance à Dieu. Et c'est une décision très personnelle, très délibérée et très active de faire confiance à Dieu. Lorsque je suis tombé malade et que j'ai dit à Dieu, Seigneur, c'est correct, ce que tu fais est correct, que ce soit parce que tu me gardes ici ou que tu m'amènes près de toi, c'est correct. Cette décision-là n'était pas une décision de passivité par rapport à la maladie, c'était pas un abandon par rapport à la maladie, mais c'était une décision de me conformer totalement dans mon être tout entier par rapport à la volonté de Dieu. Et je disais, Seigneur, je ne sais pas quelle est ta volonté. Je ne sais pas si ta volonté, c'est de me garder ici-bas et forcer d'admettre que ça a été ça, c'était ça sa volonté. Donc, Seigneur, je ne sais pas si tu veux me garder ici ou si tu veux m'amener près de toi, mais je te dis, Seigneur, que tout est correct dans ce que tu dis et je me plie et je me conforme totalement à ta volonté. Donc, recevoir la parole de Dieu, c'est de nous amener à une vie active, mais conformée, qui se conforme à la volonté de Dieu. Et cela n'est pas du tout passif. C'est une décision active. Pourquoi c'est active? Pourquoi c'est une décision qui est active? Parce que dès que vous aurez pris cette décision, vous aurez toutes les occasions pour revenir en arrière. Vous aurez toutes les occasions pour reprendre les choses en main et puis faire marche arrière. C'était une décision constante pour moi jusqu'à aujourd'hui encore, où je dis, Seigneur, c'était OK hier, c'est encore OK aujourd'hui. C'était correct hier, c'est encore correct aujourd'hui. Je te faisais confiance hier, je te fais encore confiance aujourd'hui. Au début du chemin, je ne savais pas quel serait ce chemin. Je ne savais pas ce qu'impliquerait la chimiothérapie. Je ne savais pas ce que l'opération impliquerait. Je ne savais pas ce que ça allait changer dans ma vie physique de tous les jours. Alors, quand j'ai pris la décision, un, je savais que ça serait une décision qui serait ferme, qui se devait d'être ferme, qui se devait d'être définitive. C'était une décision avec laquelle je pouvais pas venir sous les coups de la vie et dire au Seigneur après ça, hey, non, non, c'est trop dur, Seigneur, je ne suis plus d'accord, je ne veux plus aller dans ce chemin-là, je reprends les choses en main. Cette décision était une décision ferme que j'ai maintenue. Et même quand ça allait mal, même quand c'était demandant, même quand c'était exigeant, même quand je passais 1 heure ou 2 dans la douche, simplement à pleurer parce que je voulais pas que Daphné me voie et c'était le seul moyen que j'avais de décompresser. Mais même dans ce temps-là, je ne revenais pas sur la décision. Je n'étais pas en train de pleurer en disant à Dieu, non, j'aimerais que ce soit différent, je voudrais que ça change. On revient sur la décision. Non, c'était Seigneur, j'ai plus de force. Et c'était mon seul moyen de faire, on va dire, de faire sortir la pression qu'il y avait à l'intérieur. J'écrivais à quelqu'un ces derniers jours et je disais, j'ai compris à travers ce moment-là que les larmes sont tout simplement une soupape que Dieu nous donne pour faire sortir le trop-plein de pression. Et croyez-moi, je ne suis pas quelqu'un qui pleure beaucoup, mais si nécessaire, j'ai pas de problème depuis ce temps-là à le faire. Probablement que je le ferai dans le privé de ma solitude, dans le privé sans que personne ne me voie, ni même Daphné, mais je vais l'utiliser si j'en ai besoin parce que j'ai compris que c'est bien pour moi. Mais cela n'est pas revenir en arrière. Cela, c'est tout simplement dire, Seigneur, j'ai mal, mais je maintiens ma décision. Comme quoi, effectivement, tu es bon, comme quoi, effectivement, tu es sage, et comme quoi, effectivement, ce que tu fais est parfait. Donc, la parole reçue ne prône pas la passivité, mais elle prône une soumission, une conformité, réfléchie, acceptée, délibérée à la volonté de Dieu. Et enfin, dernier point pour ce matin, lorsqu'on dit ne soyez pas inconsidérés. Si on le lit au verset d'hier qui nous parlait du travail qu'on fait pour Dieu, de la journée de travail qui nous est donnée, du temps qui nous est permis, par lequel il nous est permis de travailler pour Dieu, on aura des comptes à rendre puisque nous sommes serviteurs et que Dieu doit nous dire à notre arrivée, bon et fidèle serviteur. Donc Dieu va juger et qualifier ton travail. Donc ton travail, mon travail, doit être aussi fait de façon réfléchie. La qualité de notre travail, ça c'est notre dernier point ce matin, la qualité de notre travail dépendra de l'attention que nous lui vouons. Si je travaille un peu laissé aller, si je travaille sans y prêter attention, à ce moment-là, le résultat peut être médiocre. J'ai un ami d'école qui aujourd'hui est un peintre, un artiste peintre, et il prend des petites photos qu'il reproduit beaucoup plus grandes. Et il fait quelques vidéos par moment de ses techniques de dessin et tout ça. Il travaille essentiellement avec le fuseau. Actuellement, et ou sinon avec tout simplement un pinceau et de l'encre noire. Donc, il reproduit de très vieilles photos qui sont toutes petites, beaucoup plus grandes. Et je le voyais arriver, c'est un travail de précision. Mais ce travail de précision et la qualité de son travail demandent une attention particulière. Donc, il est en train de réfléchir à comment. Il travaille, il est en train de réfléchir comment manifester telle ombre, comment rajouter telle luminosité dans son dessin, comment s'assurer que le plan de lumière soit partout le même dans le dessin, comme si, il y avait une seule source de lumière et pas 36 autour. Donc, son travail est réfléchi. Et lorsqu'on fait attention à notre travail pour Dieu, inévitablement, On doit donc réfléchir à notre travail. Et certaines personnes ne veulent pas réfléchir à leur travail, tout simplement parce qu'ils se disent, si je ne réfléchis pas, ben j'aurai pas de compte à rendre. Il y a cette expression en anglais, what you don't know doesn't hurt. Ce que tu ne connais pas ne fait pas mal. Mais c'est pas parce que ça ne fait pas mal que tu n'es pas coupable de la chose. Lorsque tu te fais arrêter pour un excès de vitesse, tu ne peux pas dire au policier, je ne savais pas que la limite de vitesse ici était une telle. Si tu roules à 70 et que la limite est 50, tu ne peux pas dire au policier, je ne savais pas que la limite était à 50. Il y a des panneaux, même si tu fermes les yeux par rapport aux panneaux, tu ne peux pas dire, je n'ai pas vu les panneaux. Les panneaux sont là pour que tu y prêtes attention, pour que tu regardes, pour que tu réfléchisses par rapport à ton odomètre ou à ton speedomètre, à savoir est-ce que tu es en train d'accélérer ou tu es dans le respect des normes. Donc avec Dieu, c'est la même chose. Notre travail, pour qu'il soit de qualité, il faut qu'il soit empreint aussi de réflexion. La qualité de notre travail va dépendre de l'attention qu'on lui voue et donc de la réflexion qui accompagne ce travail-là. Si je suis en train de faire une chose, mais pourquoi je la fais, comment je la fais, avec quelle attitude je la fais, avec quel objectif je la fais, si tu ne réfléchis pas à cela, tu fais donc un travail dépourvu de réflexion et de façon inconsidérée. Et ce n'est pas la méthode avec laquelle on sert Dieu. Il nous faut réfléchir à ce que nous faisons, à pourquoi nous le faisons, à comment nous le faisons, à quels sont les objectifs, à quelle est l'attitude que je manifeste ou quelle est l'attitude vraiment dans le fond de mon cœur que Dieu connaît et que Dieu peut voir et par lesquels je ne peux pas le tromper même si je trompe tout le monde. Donc la qualité de ton travail va aussi dépendre de ta réflexion. Donc le croyant n'est pas quelqu'un d'irréfléchi. Celui qui a la foi, l'homme et la femme de foi ne sont pas des individus irréfléchis. La foi n'est pas une chose irréfléchie. La foi, c'est une décision de faire confiance à Dieu. La foi, c'est Seigneur, même si tu me reprends ou même si tu me gardes ici, même si les choses se compliquent ou même si les choses s'allègent, je te fais confiance. Je décide que je te fais confiance. Et ça, ce n'est pas passif, c'est très actif. Et c'est une position qui est remaintenue ou qui est remise en ordre et remise en vigueur à tous les matins. Donc la foi n'est pas une chose passive, la foi n'est pas empreinte de passivité, l'étude de la parole de Dieu n'est pas empreinte de passivité, mais c'est quelque chose de très, très, très actif. Alors voilà ce que nous avions pour ce matin. On va prier pour remettre cette journée entre les mains du Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour cette parole que tu as préparée de toute éternité pour nous et qui nous nourrit, qui nous abreuve et qui nous permet d'avancer. Alors je prie pour ma sœur, je prie pour mon frère. Je prie que leur vie soit une vie active. Active devant toi. Des décisions fermes, résolu et des décisions que l'on préserve malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, malgré le flux de pensées ou d'opinions qui peut venir à l'encontre de la décision que nous prenons, que nous puissions, Seigneur, nous soumettre volontairement, passionnément à ta volonté et non pas simplement, tout simplement, vivre une vie passive. Tu ne nous appelles pas à la passivité. Tu nous appelles à des actions réfléchies, à un mode de vie réfléchi. J'obéis à Dieu non pas par passivité, mais parce que j'ai décidé que je resterai intègre à la volonté de mon Seigneur. Alors je prie qu'il en soit ainsi pour moi, qu'il en soit ainsi pour ma sœur et pour mon frère. Garde-nous, instruis-nous, arrose cette parole ce matin par ta grâce et ton onction et que tu puisses, Seigneur, travailler avec chacun d'entre nous aujourd'hui. Nous t'avons prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, juste rappel, on est mercredi, donc on a l'étude biblique avec le pasteur Sergio, toujours dans l'évangile de Marc, concernant la thématique servir Dieu en temps de défi. Donc c'est bon pour vous, c'est bon pour moi, c'est bon pour nous tous dans notre façon de servir Dieu. Et ça va de pair avec l'enseignement de ce matin. Donc c'est ce soir à 19h, heure de Montréal, bien sûr sur la page Facebook de l'Église. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée. On espère qu'elle sera remplie d'occasions de servir Dieu de façon très active et que vous serez de bons représentants du Seigneur. Continuez à prier donc. Pour mon père, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait deux examens assez invasifs, assez demandants aujourd'hui. Donc, que le Seigneur le soutienne et qu'il lui accorde sa grâce. Merci pour vos prières, merci pour votre affection. Que Dieu vous bénisse et on se retrouve demain matin, 8h30, pour notre prochaine bénédiction matinale. Au revoir tout le monde.